Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs alerte sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans une déclaration conjointe ce jeudi, ce groupe dénonce les violations répétées du cessez-le-feu, pourtant consacré par les accords de Washington et de Doha. Le conflit au Moyen-Orient opposant les États-Unis et l'Israël à l'Iran commence déjà à avoir des répercussions sur les flux migratoires entre Kinshasa et Dubaï. Plusieurs Congolais sont bloqués, l'aéroport international de Dubaï étant fermé. L'invité de ce journal, c'est Jean Chrysostome Kijana. Il est modérateur de la coalition Tous pour la paix, une organisation de la société civile du Nord Kivu. Avec lui, nous parlons des dernières sanctions infligées aux quatre hauts gradés de l'armée rwandaise par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs exprime sa grande préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration conjointe ce jeudi, les États-Unis, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Union européenne dénoncent les violations répétées du cessez-le-feu pourtant consacré par les accords de Washington et de Doha. Les détails avec Daniela Awa.
L'ICG cite notamment l'utilisation de drones dans des attaques militaires, un nouvel élément jugé particulièrement dangereux pour les civils. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit, affirme le communiqué. Les groupes appellent donc les parties à cesser immédiatement les hostilités, à respecter leurs obligations internationales et à reprendre les négociations. La déclaration salue par ailleurs les efforts des médiations menées par l'Union africaine, le Qatar, la CERGEL et la MONUSCO, ainsi que les initiatives visant à rétablir un dialogue intercongolais inclusif, indispensable à une paix durable. Enfin, l'ICG exhorte les acteurs impliqués à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave, à mettre fin à toute incitation à la haine ou à la discrimination, notamment envers les communautés rwandophones.
Des éleveurs Mbororo estimés à plus de 3000 multiplient des exactions dans plusieurs agglomérations du Nord Ubangi. Le gouverneur de cette province a rapporté cette situation ce mercredi au vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Aussitôt informé, Guy Kabombo Mwadiamvita a annoncé des mesures sécuritaires immédiates, dont le redéploiement des forces armées pour restaurer l'ordre dans cette partie du pays. Les explications de Blaise Ndongala Mayane.
Réunis en urgence mardi dernier à Kinshasa, de nombreux responsables du gouvernement central ainsi que ceux de l'exécutif provincial du Nord Ubangi ont examiné la question des éleveurs Mbororo arrivés avec près de 30 000 têtes de bétail au pays. Selon les autorités locales, ces nomades sont accusés de destructions répétées des champs, d'accaparement d'espaces agricoles ainsi que de multiples incidents violents faisant monter la tension au sein des communautés. À l'issue de cette rencontre, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a ordonné le redéploiement des forces armées pour rétablir l'ordre dans cette partie du pays. Guy Kabombo Mwadiamvita estime également que ce dossier doit être porté au plus haut niveau de l'État avec une saisine directe au président de la République. Selon le gouverneur du Nord Ubangi, un jeune homme de 23 ans a récemment été mortellement poignardé lors d'une altercation impliquant un éleveur Mbororo. Ce drame a renforcé l'inquiétude au sein des populations de cette partie du pays, déjà fragilisée par une situation économique difficile.
Dans le sud Kivu, pendant ces temps, l'antipathie populaire s'accentue de plus en plus à l'égard des groupes Wazalendo dans le territoire de Shabunda. L'opinion publique les accuse de commettre des actes de barbarie envers la population civile. Des mutilations atroces et les pillages généralisés sont entre autres griefs reprochés aux Wazalendo du territoire de Shabunda. Jean Kassami nous en fait les points.
Les Wazalendo, considérés jadis comme une force de résistance à l'agression de la partie est de la RDC, sont aujourd'hui déclarés indésirables partout à Shabunda et plus particulièrement dans la chefferie de Wakabango Premier, groupement de Bamuguba Sud. Le coordonnateur national de l'ASBL Forum des Nationalistes joint sa voix à une multitude d'autres qui ne cessent de décrier les abus commis par les Wazalendo contre la population civile. Magene Kakumbujil.
Ces factions dirigées par des groupes de jeunes autoproclamés commandants sèment la terreur et le chaos dans les territoires de Shabunda. Les affrontements entre deux chefs de guerre, d'ailleurs qui ont conduit à leur mort, des blessés graves du côté de la population. Les écoles ont dû fermer. Les hommes ont été forcés de fuir dans des brousses, les yeux crevés, abandonnant leur famille.
D'autres alertes proviennent de partout. La dernière en date est celle du ministre provincial de la justice. La pression populaire l'avait poussé lui aussi lors de sa dernière visite de réconfort à sa base à demander aux Wazalendo de se désengager au chef-lieu du territoire à Shabunda Centre. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En Ituri, la coordination provinciale de la société civile Force Vive encourage les FARDC à poursuivre la traque des rebelles de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga qui endeuille cette province. Elle l'a dit ce vendredi à Bunia, deux jours après la découverte à Mabanga dans les territoires de Djougou d'une importante cargaison d'armes et munitions qui appartiendraient à cette milice. Dans sa déclaration, cette structure citoyenne demande à l'armée de procéder au traçage de toutes ces armes et effets de guerre afin de connaître leur provenance, ce qui, selon elle, permettrait de mettre fin au trafic d'armes en Ituri, source d'insécurité en province. Son coordonnateur Dieudonné Lossa indique que sa structure réitère son engagement à sensibiliser la population à collaborer avec les forces loyalistes pour barrer la route à tout mouvement insurrectionnel susceptible de perturber la paix. Dieudonné Lossa est au micro de Marcel Kizabiamongo.
Il y a lieu de rappeler que c'est la deuxième découverte de caches d'armes suite aux opérations militaires menées contre la CRP dans la même zone de Mabanga. Le bureau de coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri souhaite que le spécialiste d'état-major général des FARDC soit impliqué afin de retracer toutes ces armes et munitions pour que cesse définitivement cette entreprise criminelle qui a endeuillé des milliers de Ituriens et a tant freiné le développement de notre chère province. Par ailleurs, la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri réitère l'engagement de toutes ses composantes de sensibiliser la population à collaborer avec les forces loyalistes à la prise de conscience collective pour la paix, afin de barrer les libres passages à tout mouvement subversif susceptible de perturber la paix à corps fragile en Ituri.
Direction province du Lualaba, retour au calme dans la cité de Kakanda, territoire de Luboudi après des affrontements qui ont opposé ce jeudi les creuseurs artisanaux aux forces de sécurité. D'après des sources locales, les bilans font état d'un mort et des dégâts matériels. À l'origine de ces incidents, la mort d'un négociant des minerais abattu à bout portant par un militaire des FARDC à la suite d'une dispute. Information confirmée par le délégué administratif de la cité de Kankanda. Paul Munanga nous en parle de ses reportages.
Dans la matinée de ce jeudi, la famille du négociant qui a été abattu, accompagnée par les creuseurs ainsi que la communauté, sont descendus au bureau administratif de la cité de Kakanda pour s'imprégner de la situation qui a causé la mort du négociant. Sur place, la situation a dégénéré et des violents affrontements ont éclaté entre la population et les forces de sécurité. Au jet des pierres des manifestants, les forces de sécurité ont répondu par des tirs à balles réelles, rapporte des sources à Kakanda. Une jeune femme a été touchée par une balle perdue et elle en est morte, rapportent les mêmes sources. Le délégué administratif de la cité de Kakanda annonce que les manifestants ont pillé son bureau, les bureaux de l'ANR, ainsi que les bureaux d'autres services, la maison d'un opérateur économique, et ils ont mis le feu sur un camion. Le coordonnateur provincial de l'ONG Action pour le développement intégral et durable, Adid, dans le Lualaba, revient sur la mort du négociant dans la nuit de ce mercredi et qui a déclenché les manifestations. Ben Kapajika.
Le militaire demandait les perdièmes au convoi. Et les négociants, connaissant déjà que le demande des FARDC n'était pas habilité de demander le per diem, c'est comme ça que leur dispute a tourné au vinaigre pour ouvrir les faits et le messie a succombé.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Je le disais en titre, le conflit au Moyen-Orient opposant les États-Unis et Israël à l'Iran commence déjà à avoir des répercussions sur le flux migratoire entre Kinshasa et Dubaï. Plusieurs Congolais partis pour des raisons touristiques ou commerciales se retrouvent dans l'impossibilité de rentrer à Kinshasa, l'aéroport international de Dubaï étant fermé. L'un d'eux, que Radio Kapi a pu joindre et qui a requis l'anonymat, exprime son désarroi faute de moyens pour survivre sur place. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Moi, je suis ici à Dubaï. Normalement, je devais rentrer, je devais prendre mon avion. Le 1er mars, c'est arrivé que quand les frappes ont commencé à l'Iran, parce que moi, je devais transiter par Doha. Le 28, vers 15h, on m'a envoyé un mail en me disant que l'espace aérien qatari était fermé. Donc, je n'avais plus rien à dire. Directement, je me suis connecté à l'Internet pour voir les informations. Aux infos, on me dira que l'espace qatari est fermé. C'était juste quelques minutes après, 30-45 minutes après. Et on nous a aussi informé que l'aéroport de Dubaï était aussi fermé. Pendant que moi, je dormais parce que j'ai préparé mon retour, tout était déjà fait prêt pour rentrer. On nous dit qu'on ne peut plus rentrer. Donc, depuis le 28, normalement, c'est le 1er le matin, puisque je devais quitter l'hôtel. Alors, le matin, l'hôtel nous a dit qu'il faut encore payer. Et l'épée que j'avais, je me suis débrouillé. J'ai payé pour 2 jours, en entendant l'avertir de l'aéroport, hein.
Ici à Kinshasa, c'est dans un contexte urbain marqué par des embouteillages, carence de bus et la pression démographique qu'un nouveau leadership vient de s'installer à la tête de la société Transco. Face à une demande croissante en transport public, notamment à Kinshasa, l'entreprise est appelée à renforcer sa capacité opérationnelle et à restaurer pleinement la confiance des usagers. John Chibwaba nous en dit plus.
Plusieurs défis attendent Jérémy Kilubu Matondo, le nouveau DG de Transco. Redynamiser l'administration centrale afin d'améliorer la coordination interne, renforcer les charrois automobiles et les macles pour accroître l'offre de transport, instaurer une gestion orthodoxe et transparente, gage de crédibilité, valoriser le capital humain, moteur essentiel de la performance, accélérer la numérisation et moderniser les systèmes de transport en commun et améliorer l'image sociale de Transco en rapprochant la entreprise des citoyens. L'arrivée de Jérémy Kilubu Matondo aux commandes ouvre ainsi une nouvelle séquence pour Transco avec l'ambition affirmée de conjuguer requêtes financières, modernisation structurelle et services publics de qualité. Un défi détail, mais aussi une opportunité historique pour repositionner durablement Transco au cœur du développement urbain congolais. Au-delà du protocole, l'arrivée de cette nouvelle équipe managériale traduit la volonté des autorités de repositionner Transco comme pilier stratégique de la mobilité urbaine.
Au Nord Kivu, des associations féminines de Beni appellent le Royaume-Uni à s'impliquer davantage dans la réforme du secteur de sécurité et dans la lutte contre les ADF en RDC. Elles l'ont exprimé jeudi lors d'une rencontre avec la baronesse Chapman de Darlington, la ministre britannique chargée du développement international et de l'Afrique, qui est en visite dans la région pour s'imprégner de la crise humanitaire dans l'est du pays et de l'impact de l'aide britannique. Ces femmes ont également insisté sur les conséquences de l'insécurité et plaider pour l'accompagnement des survivantes des violences sexuelles et des victimes des massacres et des ADF à travers des projets agricoles. L'une d'elles, Noëlla Muliwavyo, coordonnatrice du collectif des femmes pour les vulnérables Café Vu de Beni, s'exprime au micro de Martial Papimoukeba.
Nous avons montré que notre zone vise depuis 1996 dans la multiplicité des groupes armés. Nous avons cité d'abord les ADF qui ont commencé depuis longtemps. Ce que nous avons recommandé à la ministre est qu'elle doit renforcer la réforme du secteur sécuritaire au niveau de la RDC, mais aussi elle doit voir comment appuyer les femmes dans le projet des chaînes de l'agriculture, mais aussi voir comment entretenir des relations avec notre République démocratique du Congo pour appuyer les associations féminines en vue d'encadrer les victimes des massacres et des victimes de violences sexuelles, mais aussi les rescapés des tueries des ADF. Elle a été contente de voir comment elle palpe du doigt la situation qui se passe à l'est de la RDC et elle va s'impliquer de plus, mais aussi par rapport à leur plan d'action britannique. Elle a un plan d'accompagner l'agriculture dans la RDC avec notre gouvernement ensemble.
l'actualité internationale.
Au Sénégal, 19 agences publiques et parapubliques doivent être prochainement supprimées selon un communiqué du Conseil des ministres daté du 4 mars 2026. Objectif affiché, économiser 55 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Le pays fait face à un déficit budgétaire de près de 14% de son produit intérieur brut PIB et à une dette du secteur public et parapublic qui était estimée provisoirement à 132% de son PIB à fin 2024.
L'invité.
Les sanctions infligées aux 4 hauts gradés de l'armée rwandaise par le gouvernement des États-Unis d'Amérique continuent à susciter des réactions au sein des organisations de la société civile du Sud Kivu. Jean Chrysostome Kijana, modérateur de la coalition Tous pour la paix, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Jean Chrysostome Kijana, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre analyse à l'égard des sanctions que les États-Unis viennent d'infliger à 4 hauts responsables militaires de l'armée rwandaise en rapport avec leur implication dans les conflits qui déciment l'est de la RDC?
La coalition Pamoja kwa Amani prend acte avec satisfaction les mesures, les sanctions qui ont été prises par les États-Unis d'Amérique contre 4 responsables rwandais, mais également et aussi contre l'armée rwandaise, les RDF, en tant qu'entité.
En quoi, selon vous, ces sanctions vont-elles contribuer pour faire bouger les lignes en poussant le Rwanda de retirer ses troupes de la RDC?
Pour Pamoja kwa Amani, c'est un pas très significatif, cette reconnaissance par deux puissances internationales, notamment les États-Unis, du rôle très très déterminant que joue le Rwanda dans cette crise qui n'a fait qu'endayer notre partie orientale. Et c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit au plus haut niveau et nous saluons cette reconnaissance. Mais est-il que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers? Nous ne devons pas penser que tout a été fait. Il est de notre responsabilité d'interpeller encore une fois les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale dans son ensemble, et leur dire que des sanctions, c'est une très bonne chose, des sanctions symboliques, c'est aussi une bonne chose, mais nous aurions souhaité qu'ils puissent demeurer dans la fermeté, qu'ils puissent demeurer dans une politique de tolérance zéro envers ce pays qui est en train de mettre à mal non seulement la stabilité en RDC pendant plus de 30 ans, mais également dans toute la sous-région des Grands Lacs, et connaissant bien les modus operandi des autorités rwandaises.
Qu'est-ce que la coalition aurait pu souhaiter voir les États-Unis faire encore davantage?
Nous sommes en train de demander aux États-Unis, à l'administration du président Donald Trump, de recourir à tous les moyens. À tous les moyens, et nous insistons bien, y compris à des moyens militaires, à des contraintes forcées pour obliger le Rwanda de retirer toutes ses troupes de la République de moitié du Congo et de cesser tout soutien aux groupes rebelles, à des groupes insurrectionnels qui mettent à mal la stabilité, la paix, la quiétude dans toute la sous-région des Grands Lacs. S'il faut frapper le Rwanda militairement, il faut le faire. S'il faut frapper tous ces groupes armés et les démanteler par la force, il faut le faire. Parce que nous savons comment et ces groupes armés et leurs parrains, les Rwanda, manigancent, comment ils jouent avec le temps et comment ils sont experts dans la manipulation, et nous pensons que il est temps de changer de paradigme, de tourner de paradigme et de comprendre que la paix, ce n'est pas une faveur pour le peuple congolais, la paix, c'est un droit. Et enfin, nous sommes en train de saluer ici cette avancée qui, pour nous, doit poser les jalons de la reconnaissance de tous les crimes qui ont été commis par des troupes étrangères, notamment les troupes rwandaises sur le territoire congolais, et des crimes non seulement civils, mais également des crimes économiques et des crimes environnementaux. Donc nous pensons que, au-delà des sanctions, ça pose déjà des jalons pour que la justice internationale puisse sévir dès à présent contre tous ces responsables qui ont été à la base de ces millions de morts, de ces millions de femmes, de nos enfants, de nos filles, de nos mères, qui ont été violées, les viols étant utilisés comme une arme de guerre. Voilà un peu notre réaction en tant que société civile du Kivu, en tant que coalition Pamoja kwa Amani.
Quel est votre mot de la fin?
Nous allons poursuivre de notre part avec nos plaidoyers au plus haut niveau, au plus haut sommet, pour que les narratifs citoyens soient entendus, pour que la voix des victimes, la voix des communautés de l'Est soit entendue. Nous ne devons pas seulement continuer à subir, mais nous devons désormais être au cœur, être au centre, et là où on décide, là où on parle de la paix et de la situation de notre pays.
Monsieur Jean Chrysostome Kidjana, nous vous disons merci.
Oui, c'est à moi de vous dire merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.
C'était notre invité Jean Chrysostome Kidjana, modérateur de la coalition Tous pour la paix, qui parlait des dernières sanctions des USA aux quatre commandants des RDF. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Richard Junior Kiamunga et mise en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore suivre ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.